Nous sommes le vendredi 26 juin. Bienvenue pour ce nouveau journal en français sur KBS World Radio, présenté par Clément Charles et moi-même, Oh Hayang.
Au sommaire de cette édition, prix des carburants, le gouvernement abaisse leur plafonnement. Le ministère de la Défense dévoile les quatre principaux piliers de sa nouvelle politique en matière de drones. Séisme au Venezuela, Lee Jae-myung exprime ses pensées envers les victimes.
Le gouvernement a mis en place en mars dernier un plafonnement des prix des carburants afin de freiner leur forte hausse face aux tensions au Moyen-Orient. Il continue de le réajuster et doit imposer cette semaine un nouveau plafond, le 7e depuis l'instauration du dispositif.
Avant de le dévoiler ce soir, l'exécutif a d'ores et déjà annoncé avoir décidé de l'abaisser, invoquant l'apaisement progressif des incertitudes extérieures après la signature d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que la tendance baissière des cours internationaux du pétrole. Les autorités ont aussi évoqué la possibilité d'un ajustement graduel du plafonnement, tout en maintenant le système jusqu'à ce que les coûts des produits pétroliers se stabilisent.
Il a également été décidé de geler les principaux tarifs publics, dont ceux de l'électricité et du gaz, pour le second semestre de l'année, et de baisser aussi le taux préférentiel à accorder un certain volume d'importation.
D'autres mesures visant à protéger le pouvoir d'achat face à l'inflation sont également prévues en juillet ou en août, notamment une vaste opération de réduction d'une ampleur inédite de tous les produits agricoles, halieutiques et d'élevage. Le gouvernement a par ailleurs promis de faire de son mieux pour que l'inflation ne dépasse pas les 3% entre juillet et décembre prochains.
Le ministère de la Défense a dévoilé ce vendredi les quatre principaux piliers de sa nouvelle politique en matière de drones.
Le premier de ces axes consiste à renforcer rapidement et drastiquement les capacités de drones et de lutte anti-drones. À cet effet, le ministère entend acquérir plus de 20 000 engins à bas coût et procéder au déploiement opérationnel des drones kamikazes de longue portée et de conception nationale baptisés K-Lucas. Il prévoit également de développer les capacités de drones de nouvelle génération équipés de l'intelligence artificielle, de déployer de petits aéronefs dans un premier temps à proximité de la frontière avec le Nord et d'accélérer la mise au point des armes à énergie dirigée.
Le deuxième axe vise à améliorer le système d'acquisition des capacités de drones et anti-drones en établissant une nouvelle loi en ce sens.
En ce qui concerne le troisième enjeu, il vise notamment à réorganiser l'actuel commandement des opérations de drones afin de le transformer en une simple direction des drones du ministère de la Défense. Cette structure, créée sous l'administration de Yoon Suk-yeol, était placée sous le feu de la controverse après que le chef de l'État destitué a ordonné l'envoi de drones au-dessus de Pyongyang pour légitimer l'imposition de la loi martiale en décembre 2024. Enfin, pour le dernier volet, le ministère envisage la formation de 500 000 guerriers du drone. Environ 60 000 drones commerciaux éducatifs, construits localement, seront introduits lors d'une première étape.
Défense toujours. Le plus grand exercice aéronaval multinational, connu sous le nom de RIMPAC, a débuté mercredi sous l'égide des États-Unis.
Le Pentagone a annoncé que ses manœuvres se dérouleront jusqu'au 31 juillet dans les eaux entourant Hawaï, avec la participation d'environ 30 000 soldats venant de 30 nations, de 31 navires de surface, de 5 sous-marins et d'environ 200 aéronefs.
La Corée du Sud prend part depuis 1990 à ses entraînements, organisés tous les deux ans. Alors, qu'est-ce qui est nouveau cette année, Clément ?
Sa marine participe pour la première fois au commandement de la composante maritime combinée, la CFMCC. Il s'agit d'une mission qui dirige l'ensemble des opérations réelles des forces navales des pays participants. Son destroyer de nouvelle génération, Jongjo le Grand, de classe 8200 tonnes, a déjà quitté début juin sa base navale de l'île de Jeju pour Hawaï. Son sous-marin de 3000 tonnes, Dosan Anchango, et son avion de patrouille maritime P-8A Poséidon le rejoindront pour leur première participation.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
En Corée du Nord, la KCNA a rapporté aujourd'hui qu'à l'occasion du 76e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée, le 25 juin, Kim Jong-un a assisté à des essais d'armement réalisés dans le cadre du plan quinquennal des développements de la défense.
Lors de ces tests, les performances de plusieurs systèmes ont été évaluées, notamment un lance-roquette de 240 mm modernisé, des missiles balistiques tactiques et des projectiles d'artillerie à portée étendue pour obusier automoteur de 155 mm. Ces expérimentations semblent avoir été axées sur l'amélioration des performances de moyens de frappe à portée de la Corée du Sud.
Toujours d'après l'agence de presse, satisfait des résultats, le dirigeant nord-coréen a également évoqué la situation internationale, affirmant que l'amélioration des capacités de défense constituait une tâche essentielle pour l'État.
Il a ajouté que la stratégie militaire de Pyongyang ne se limitait pas à la défense, mais incluait également le développement de capacités offensives fortes afin de renforcer la dissuasion.
Lee Jae-myung a exprimé sa tristesse et ses pensées envers les victimes d'un double séisme au Venezuela et leurs proches.
Dans un message posté hier sur ses réseaux sociaux, le président de la République a souhaité la remise en ordre rapide des zones sinistrées, un prompt rétablissement des blessés et le retour en sécurité des personnes portées disparues.
Le Venezuela a subi deux puissants tremblements de terre de magnitude 7,2 puis 7,5.
Sa présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a décrété l'état d'urgence sans pour autant rendre public le bilan provisoire. Dans ce contexte, la Corée du Sud a appris que les locaux de son ambassade à Caracas, ainsi que la résidence de l'ambassadeur, avaient subi des dégâts matériels. Une partie du plafond du couloir des bureaux s'est effondrée et des vitres et des carreaux ont été cassés.
Toutefois, aucun ressortissant sud-coréen n'a été victime de ces tremblements de terre.
Actuellement, environ 125 sud-coréens vivent dans ce pays d'Amérique du Sud, dont la majorité réside dans le quartier de Baruta à Caracas. Tout en restant en état d'alerte en prévision d'éventuelles répliques, l'ambassade et l'association des résidents ont mis en place des centres d'évacuation et ont distribué des médicaments et des fournitures de secours.
Et nous nous envolons pour le Moyen-Orient, Clément. Les traversées de navires se poursuivent dans le détroit d'Ormuz.
Parmi eux, 8 autres bâtiments exploités par des compagnies sud-coréennes, avec à leur bord 37 marins sud-coréens. Une information confirmée ce vendredi par le ministère des Océans et de la Pêche. Celui-ci a précisé que l'un de ces navires se dirige vers la Corée du Sud, les autres vers des pays tiers.
Désormais, seuls 5 cargos sud-coréens, dont le Namu, actuellement en réparation, restent immobilisés dans le détroit qui sépare l'Iran d'Oman.
Et 47 marins sud-coréens se trouvent encore à bord, 17 dans des bâtiments sud-coréens et 30 sur des navires étrangers. Le ministère assure que tous ces cargos, excepté le Namu, pourront franchir ce point de passage stratégiques les uns après les autres en fonction de leur calendrier de navigation ainsi que des concertations avec les pays concernés. Et d'ajouter qu'il œuvrera pour leur passage en sécurité en fournissant les informations nécessaires et en les suivant en temps réel.
Et un mot de sport pour terminer cette édition beauté. L'équipe féminine sud-coréenne d'épée a remporté mercredi le titre par équipe au championnat d'Asie d'escrime en Inde.
Composée de Song Se-ra, Im Tae-hee, Lee Hye-in et Yang Seung-hae, la sélection s'est imposée face à la Chine sur le score de 44 à 43 en finale, disputée à New Delhi, remportant ainsi la médaille d'or. Grâce à ce succès, les sud-coréennes retrouvent le sommet 2 ans après leur sacre au championnat d'Asie de 2024.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et passez un excellent week-end à l'abri de la chaleur.